Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Rémi Lefebvre pour la discussion.
Merci. Bonjour à tous. Donc, très heureux de... Merci de m'avoir donné la... Je sais pas si ça marche. Donc, merci de m'avoir donné la possibilité de lire ces papiers que j'ai trouvés très intéressants. Alors, dommage que Anja Thomas ne soit pas là parce que c'était un papier très intéressant, parce que c'était un très long papier en anglais que j'ai pris voilà, qui m'a pris beaucoup de temps. Bon, c'est un peu dommage que je ne puisse pas discuter ce papier, en plus j'avais pas mal de choses à dire, mais bon, c'est comme ça. Éventuellement, j'enverrai ma discussion par mail. Alors, je dois dire que je ne sais pas trop pourquoi on m'a sollicité sur cette table ronde-là, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais je pense que cela apporterait un regard extérieur qui peut être intéressant. Concrètement, j'ai travaillé sur les députés. Moi, j'ai travaillé plutôt sur les députés quand j'ai travaillé sur le Parlement. Donc, les députés socialistes d'un point de vue socio-historique, les emplois du temps des députés plus récemment, ou encore encore plus récemment les députés En Marche issus du Parti socialiste que je suis. Donc là, voilà, sur les questions qui sont en jeu dans les papiers. Je n'ai pas forcément d'expertise, mais je vais tenter quand même de discuter ces papiers qui m'ont beaucoup intéressé. Alors, d'abord, première remarque, j'ai été interpellé par le choix des organisateurs de placer, après un premier panel ce matin, auquel je n'ai pas participé pour des raisons de cours à faire, malheureusement, d'emblée sur le Parlement au-delà de la loi. C'est-à-dire qu'on démarre sur en fait un panel où on ne va pas traiter finalement de la fonction la plus explicite du Parlement. Et d'ailleurs, cette fonction entre guillemets implicite n'arrivera que vendredi pour le panel 4. Donc effectivement, ça donne une coloration à l'économie générale de la journée, hein, qui s'appelle la permanence d'institutions subordonnées, puisqu'on décide d'emblée d'aborder la question finalement un peu oblique de... on ne s'intéresse pas à l'activité législative directement, mais on va s'intéresser aux fonctions de contrôle, aux missions, à leur européanisation. Donc ça, c'est le papier qui n'a pas été présenté. Ou alors, on va interroger sur la question du Liban, la question de savoir à quoi ça sert, hein, en fait, cette institution parlementaire au Liban. Et donc, vous apportez une réponse assez sophistiquée, hein, sur le mode a priori pas grand-chose. Mais en fait, eh bien, si, il se passe quelque chose. Et je résumerai assez bien, je trouve, si on essaie, parce que j'ai décidé de faire une discussion de tous les papiers ensemble, on résumerait assez bien une des tonalités, enfin un des fils transversal de ces quatre papiers sur le mode « les règles ne règlent pas leurs usages », hein, ce qui était « les règles ne règlent pas leurs usages », qui était, à mon avis, la conclusion de l'ouvrage absolument séminal de Lagroix et Lacroix sur l'institution le président de la République, hein, qui, pour les jeunes doctorants ou docteurs que vous êtes dans la salle, a été un ouvrage absolument fondamental dans la sociologie critique des années 80, hein, qui a démontré, voilà, que les institutions codifiées et encadrées juridiquement font l'objet de luttes qui définissent l'institution plus que les règles. Et ça me frappe beaucoup de voir à quel point même nos juristes, nos collègues et amis juristes, finalement, dans leur analyse, développent ce point de vue. C'est-à-dire que ce point de vue qui me semble... Alors je lance cette proposition, mais qui était quand même, à mon avis, jugée un peu hérétique par les juristes dans les années 80, me semble aujourd'hui, finalement, être assez consensuel. Hein. Gilles, je te tutoie, puisque nous sommes collègues de la faculté de droit de Lille, tu parles des significations latentes des missions d'enquête, donc on est bien dans une interprétation de la règle. Tu t'attaches aux stratégies, hein, c'est les deux parties, et donc le travail de Julien sur le droit d'enquête version belge, on voit bien que c'est du droit constitutionnel, mais on est vraiment dans les usages de la règle, les partis politiques sont très présents, etc. etc. Bon. Donc, en somme, la question, c'est ce que font les acteurs du Parlement, alors qu'on pourrait croire qu'ils n'y font pas grand-chose ou qu'on fait tout pour les subordonner. Et donc, c'est ce jeu, les usages, hein, je dirais, c'est une problématique des usages de l'institution, des usages des règles. Et donc, on voit bien que, aussi, ce qui est en jeu dans les papiers, c'est au fond comment ces parlementaires trouvent une place qu'ils n'auraient pas donnée, mais qu'ils vont bricoler par des rapports de force, par une interprétation sur les règles. Hein, donc on le voit à travers le cas de Belge. Hein, je vous cite un espace de jeu original au sein duquel le Parlement réinvestit ses missions. Hein, donc là, le terme de jeu, il est explicite. Chez Gilles, donc sur les missions, là très clairement, il y a une analyse stratégiste aussi. Hein, ton objectif, c'est finalement de voir les usages stratégiques dont fait l'objet une règle, hein, et de l'analyser avec, bon, évidemment, c'est tout l'intérêt du papier, une profondeur de champ historique, puisque tu travailles sur 712 décrets, donc y a cette dimension, bilan un petit peu et de profondeur historique du travail. Sur l'européanisation, bon, désolé, j'en dis un mot, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment une règle des contraintes extérieures institutionnelles. Donc là, on est vraiment dans le papier de d'Anja Thomas, dans la sociologie, l'institutionnalisme sociologique, hein, la Bernier Luckmann. C'est assez théorique, le papier. D'ailleurs, c'est un peu curieux, très très théorique au départ, et puis après, ensuite, le terrain arrive dans un second temps. Et donc là, on est aussi dans une optique institutionnelle. Et puis, dans le cas du papier donc d'Aurélie sur le Liban, hein, donc je reprends ce que tu as redit à l'oral et qui est présent dans le papier, hein, donc là on est au-delà de la loi, puisque tu définis le Parlement comme un espace, une institution, mais aussi un espace para-institutionnel, hein, à travers lequel les partis organisent leur maintien en dehors de toute visée légiférante. Donc on voit bien que, là encore, c'est pas la loi qui intéresse, mais qu'il se joue beaucoup d'autres choses indépendamment de la production législative, des processus de production législative, etc. Donc comment, finalement, hein, il y a peut-être institutions subordonnées, mais il y a du jeu, il y a des marges de jeu qu'investissent les acteurs pour légitimer leur institution, etc. Alors, avant de dire quelques mots sur chacun des papiers et de poser quelques questions, outre cette question donc du rapport aux règles, il y avait un autre fil conducteur, je trouve, dans les papiers, alors aussi beaucoup dans le papier de Thomas Anja, c'est donc une question peut-être plus générale que je lance, c'est la question du transpartisan. La question de l'articulation dans l'institution parlementaire entre les logiques partisanes, et donc les habitus partisans, les intérêts partisans, et ce qui relèverait d'un habitus parlementaire plus général, hein, que certains auteurs, à la suite de Tardieu, hein, tout ce qu'on dit sur la camaraderie parlementaire ou l'habitus parlementaire, c'est-à-dire, finalement, l'institution partisane, elle est investie par des acteurs selon des logiques partisanes, mais l'institution parlementaire, c'est aussi des intérêts qui transcendent les intérêts partisans, c'est-à-dire l'intérêt à valoriser l'institution. Je trouve que on peut interroger en fait vos trois papiers et le quatrième absent un peu à l'aune de cette question-là, c'est-à-dire comment travailler sur l'institution parlementaire, c'est travailler sur ce jeu entre évidemment les investissements partisans, parce que c'est ça qui est mis en avant publiquement, hein, dans la façade institutionnelle, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ce jeu institutionnel qui relèvent d'une complicité institutionnelle, d'une connivence institutionnelle, d'intérêts collusifs entre des groupes différents. Et donc, à partir de là, évidemment, ça c'est très présent, je trouve, dans la communication sur la Belgique, hein, puisque la problématique, c'est comment la majorité et l'opposition ont pu se retrouver autour de la mise en place de nouvelles commissions d'enquête, potentiellement préjudiciables à l'exécutif. Et là, on voit très très bien que parfois l'intérêt supérieur du Parlement est supérieur au coût politique que peuvent jouer les partis. Alors, en même temps, avec ce que vous montrez bien, hein, qu'il y a consensus transpartisan, mais qu'il y a consensus transpartisan parce que l'exécutif n'est pas mis en cause. Et donc là, j'aimerais vous interroger sur, sur cette relation de causalité. C'est-à-dire, comment analyser cette causalité entre consensus transpartisan et le fait que l'exécutif ne soit pas mis en cause? Est-ce que le consensus est au départ parce qu'on sait que l'exécutif ne va pas être mis en cause, ou c'est parce qu'il n'a pas été encore remis en cause qu'il y a consensus? Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez expliciter le sens de cette relation? Alors, sur... toujours sur cette question du transpartisan, par rapport à la communication de Gilles, alors je vais peut-être dire une bêtise. Est-ce que l'exécutif peut... Est-ce que missionne un député de l'opposition? Est-ce que c'est arrivé?
Très rare. 3%.
Bon, 3%. Et comment... Et pourquoi c'est pas plus utilisé? Et comment ça s'est passé quand ça a été le cas? Voilà. Voilà. Bon. Donc là, peut-être que cette question-là, elle est peut-être moins présente dans, dans ton papier, Gilles. Et puis, sur le cas du Liban, qui est vraiment un cas absolument passionnant, j'ai trouvé...
Vous avez le droit de dire bizarre. Hein,
très bizarre, effectivement, très très curieux. Vraiment très très curieux. Hein, je vais revenir par la suite. Est-ce que la question qui se pose par rapport à cette question de la... transpartisan, c'est est-ce qu'il y a consensus autour de... Est-ce que le consensus autour de ces règles tout à fait particulières est transpartisan? Et qui le conteste? Est-ce qu'il y a des gens qui contestent ces règles très particulières? Et au fond, voilà, est-ce que, là encore, il y a un intérêt à maintenir les règles, hein, mais est-ce que cet intérêt, il est constant pour tous les partis? Alors, maintenant, quelques remarques plus particulières à chacun des papiers. Donc, je vais commencer par donc, le papier de Julien, que j'ai trouvé donc, extrêmement intéressant. Donc, il y a un papier particulièrement clair. Alors, c'est un papier, ça m'a fait penser, je vais faire aussi un réflexe, une remarque un peu de vieux, mais c'est, vous procédez en 18 points. Hein, donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a trois parties, mais... en gros, chaque paragraphe, il y a un point. Donc, c'est ce que Pierre Fabre conseillait de faire il y a une dizaine d'années. Pierre Fabre disait qu'il fallait faire comme ça, les papiers en sciences politiques, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des points. Et puis, donc, du coup, c'est extrêmement clair. Hein, donc, la suite, donc, trois parties et 18 points. Donc, on voit très bien où vous voulez en venir. Alors, moi, par rapport à ce papier, et en plus des questions que je vous ai déjà posées, mes questions, c'était la question des médias et la question de l'autonomie du Parlement par rapport à donc ce droit d'enquête. Puisque vous l'avez pas dit trop à l'oral, mais très clairement, hein, le déclenchement de ces enquêtes est souvent lié à des scandales, des stratégies de scandalisation, pour parler comme au Ferlé, on a l'impression que ce qui surdétermine un peu ce droit d'enquête, c'est un contexte médiatique. Et donc, j'aimerais en savoir un peu plus, en fait, sur les médias, sur la médiatisation de ces enquêtes. Parce qu'en plus, effectivement, il y a 8 parlements en Belgique. Du coup, est-ce qu'il y a une inégale médiatisation selon les parlements? Et au fond, la question que je me pose, puisque vous prenez un petit peu ce droit d'enquête comme une stratégie d'autonomisation du Parlement, mais est-ce que c'est pas aussi une stratégie d'alignement sur les médias? Parce qu'il n'y a pas... avec le temps, une injonction médiatique au droit d'enquête qui fait que finalement, et on l'avait pas un peu vu, il me semble, au moment de l'affaire Benalla récente, où finalement, le Parlement doit aux médias, à l'opinion publique, des enquêtes. Ce qui relativise les stratégies d'autonomisation du Parlement que révélerait l'usage du droit d'enquête. Bon. Voilà, donc ça, c'était... c'était la question principale que je voulais vous poser. Qu'est-ce qu'il y avait sur votre papier voilà. Bon. Alors, pour le papier de Gilles, donc, que je trouve aussi très intéressant. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant du point de vue de la sociologie des institutions, c'est que tu montres très bien que ces missions d'enquête, enfin ces missions, pardon, font l'objet, hein, c'est ce qui fait leur succès, d'usages tout à fait multiples. Hein, et donc c'est typiquement, il n'y a rien d'univoque en fait, c'est-à-dire qu'il y a une règle, mais elle est investie de plein de manières qui fait que cette règle durcit, mais du coup il n'y a pas d'univocité de la règle. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça me semble tout à fait nourrir la perspective de la sociologie des institutions et de l'institution parlementaire en particulier. Bon, et donc du coup tu dis que c'est un jeu gagnant-gagnant parce que Il n'y a pas un gagnant. Il y a des acteurs qui saisissent de cette règle, etc. Alors, j'ai plein de petites questions empiriques. Tu dis que Édouard Philippe a utilisé 40 fois déjà ces missions. Pourquoi? Comment? Parce que tu n'en parles pas du tout de ces 40 dernières fois. Je ne sais pas si tu as un peu d'informations là-dessus. Alors, j'étais un peu étonné sur l'idée que ces missions servent à tester des futurs ministres, notamment sur la période Jospin. Bon, voilà, je suis un peu étonné. Est-ce qu'on a besoin de tester... Enfin, voilà, de tester un député pour qu'il soit ministre en lui confiant une mission. J'étais un peu... j'aurais aimé en savoir un petit peu plus. Alors, aussi, sur les profits symboliques que représente pour un député le fait d'avoir une mission. Bon. Tu parles de d'honneur. Par rapport, à un moment donné, tu l'as dit à l'oral sur par rapport à la circonscription. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? D'autant qu'à un moment donné, tu dis en note que... tu ne dis pas beaucoup plus. Est-ce qu'ils ont des moyens pour mener cette mission? Parce qu'à un moment donné, tu dis en note qu'un député t'a dit en entretien qu'il avait utilisé son enveloppe de parlementaire pour travailler sur sa mission. Donc j'étais un peu étonné. Ça serait pas vraiment un profit, puisque globalement, ça vient obérer l'enveloppe. Bon, donc est-ce que concrètement... autre hypothèse peut-être un peu cynique du politiste, est-ce qu'on n'a pas des cas aussi de députés qui sont missionnés parce qu'ils sont proches d'un groupe d'intérêt ou qui aurait quelque chose qui se jouerait autour des groupes d'intérêt dans ce processus de commande en fait d'une mission aux parlementaires. Bon, enfin, le papier sur le Liban. Alors là, c'est un papier vraiment différent des deux autres, notamment par son caractère macro en fait. C'est-à-dire que c'est un papier qui est une espèce de papier très à la portée très large sur en gros une caractérisation du parlementarisme libanais. Donc là, je ne sais pas si c'est issu d'une thèse soutenue ou en cours.
C'est plus ou moins un déblayage pour un projet de bouquin, en fait.
Bon, voilà. Donc là, on n'est pas sur une entrée. C'est vraiment un papier très large, très très riche, très intéressant, très très curieux, hein, effectivement, pour quelqu'un qui connaît un peu le Liban. Puisque là, on décortique en fait des mécanismes qui peuvent paraître assez étonnants. Alors d'ailleurs, c'est ma première remarque que vous critiquez fortement. C'est assez normatif, hein, comme papier. C'est-à-dire que je prends les termes qui sont utilisés, dysfonctionnement de la représentation parlementaire, c'est pas démocratique, vous aimez pas les cylindres, et le cylindre que vous décrivez, le puzzle, tout ça, ça vous plaît pas, hein. Vous avez dit à l'oral, mise en doute, justifier la légitimité du Parlement, donc les druzes, vous aimez pas trop, hein. Les druzes qui sont le produit parlementaire à 100%, donc... Je m'interroge sur ce caractère très normatif. Pourquoi pas des papiers normatifs, qu'est-ce que ça serait Parce que alors, du coup, si vous êtes normative, on peut vous prendre à votre propre jeu. Hein, c'est-à-dire, ça serait quoi compte tenu de la situation ethnique communautaire au Liban, qui est quand même un peu compliquée, les effets de la guerre civile. Voilà, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que vous proposez, en gros, hein, si je vous prends à votre propre jeu. Alors ensuite, moi, les questions que j'ai... vous parlez aussi de perversité constitutionnelle.
Ah oui, mais le terme perversité, paradoxalement, peut être neutre.
C'est-à-dire, mais comme il y a d'autres termes qui sont chargés, les autres termes, donc du coup... Moi, les questions que j'avais par rapport à votre papier, c'est qu'en fait, forcément, ça ouvre plein de boîtes et c'est très court sur plein de questions. Donc, par exemple, ce que vous dites sur les ressources clientélisantes plus que clientélaires, qu'est-ce que ça veut dire, les ressources clientélisantes? Je vais simplement vous demander ce que vous appelez la fonction camouflage. parce qu'après il y a les fonctions levier, bouclier, c'est forcément, on est un peu, on aimerait en savoir plus. Voilà un petit peu ma discussion.
Qui veut commencer, Julien ?
Oui, je veux bien. Merci pour ces deux questions tout à fait intéressantes. Je vais commencer peut-être par la deuxième sur la question de l'influence finalement des médias qui pourraient venir entraver l'autonomie du Parlement. D'emblée, je voudrais souligner que il y a plusieurs hypothèses. Les médias parfois suivent la réaction parlementaire. Il est arrivé à certaines occasions, notamment dans les dernières commissions d'enquête, que la révélation du scandale ou de l'affaire en question vienne des médias, mais ce n'est pas du tout la majorité des cas. Donc là, je dirais que les parlementaires, au niveau du déclenchement du scandale, sont souvent en première ligne, que ce soit dans le cadre de questions parlementaires ou autres. Donc ça, c'était mon premier commentaire.
Oui, mais c'est pas parce qu'ils sont pas en première ligne qu'ils jouent pas aussi les
comédies. Tout à fait. Et alors, évidemment, les médias, on a pu le constater, suivent vraiment la plupart des commissions d'enquête de manière très intéressée. Alors, ça peut conduire à un risque d'abus, je dirais, dans le recours au droit d'enquête, si les médias, finalement, sont tellement intéressés par les enquêtes parlementaires, mais c'est plutôt dans ce cas-là un risque d'abus dans le chef des parlementaires qui mobiliserait l'outil à des fins à des fins médiatiques pour se mettre en évidence, pour par exemple, oui, parce que c'est assez prestigieux et on a beaucoup de visibilité si on fait partie d'une commission d'enquête et encore plus si on est le président d'une commission d'enquête. Donc là, il y a des stratégies personnelles qui peuvent entrer en jeu. Mais je pense que par rapport aux médias, le problème, il est plutôt inverse. Ce serait que les médias ne s'intéressent plus aux enquêtes parlementaires. Parce que dans ce cas-là, on perdrait un des intérêts, selon moi, d'une enquête parlementaire. Et donc l'abus dans le chef des parlementaires du droit d'enquête risquerait d'entraîner un désintérêt dans le chef des médias à l'égard des différentes commissions d'enquête. Et c'est plutôt là, pour moi, le risque principal. Alors sur la question de la causalité, donc entre la question de quand passe-t-on à un intérêt transpartisan, quand est-ce qu'on peut trouver finalement une certaine corrélation dans les intérêts de la majorité et de l'opposition dans le cadre d'une enquête parlementaire, c'est complexe. Peut-être je vais partir d'un exemple ici de la commission Publifine dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne rentre pas dans les détails de l'objet de l'investigation, mais donc c'est une question d'intercommunal au sein de laquelle il y avait des rémunérations indues pour des mandats locaux qui n'étaient pas en fait qui étaient des mandats fictifs plus ou moins. Et là, le ministre qui pouvait être le plus embêté par cette affaire, a démissionné juste avant que commence la commission d'enquête. Donc la démission du ministre a aidé à la création de la commission d'enquête. Et entre-temps, en fait, quand il n'avait pas encore démissionné, il y avait une commission spéciale, donc non dotée des pouvoirs d'investigation, qui était en cours et qui étudiait donc la question, le scandale. Donc là, le ministre qui était le principal protagoniste de l'affaire, le principal intéressé et qui risquait d'être mis en cause, avait démissionné. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport d'enquête qu'il y a, sur lequel on a abouti, on pointe la responsabilité politique de manière explicite du ministre, et du ministre qui a de l'ancien ministre. Alors qu'il y avait un autre ministre qui pouvait être également, qui avait aussi sa part de responsabilité dans le scandale, lui, on a souligné certaines déficiences, mais sans jamais prononcer le mot responsabilité politique, et donc on n'a jamais dû en tirer les conséquences. Et donc, c'est toujours une question de limite à ne pas franchir, je dirais, pour rester dans quelque chose qui peut être transpartisan. Alors, ça peut être un peu frustrant dans le chef peut-être des parlementaires de l'opposition, mais je pense que c'est important d'arriver au rapport le plus substantiel possible sans que l'on retombe dans un clivage majorité-opposition qui risque alors de faire perdre la crédibilité au travail de l'investigation.
Oui, merci. Alors, je vais d'abord revenir sur deux réflexions générales que tu as faites avant de venir aux questions que tu as bien voulu me poser. La première remarque générale, tu disais, la première réflexion, les règles ne règlent pas leurs usages. En fait, c'est quelque chose d'assez classique en droit parlementaire. Sans doute, peut-être pas en droit constitutionnel classique, mais en droit parlementaire, c'est extrêmement classique. Je prendrai juste deux exemples. Il y a dans le règlement de l'Assemblée nationale et dans le règlement du Sénat tout un dispositif sur la discipline parlementaire. Alors, en même temps, je vais faire une petite publicité pour un colloque qui va avoir lieu les 26 et 27 novembre sur discipline et indiscipline parlementaire à l'Université du Littoral. Ces sanctions parlementaires, elles sont vraiment incrémentées. Tel type d'acte, c'est telle sanction, etc. Et en fait, on se rend compte qu'elles sont très très peu prononcées et qu'on préfère globalement, et l'autre jour, par exemple, les derniers petits panneaux sautes brandis par la France insoumise à l'Assemblée nationale n'ont pas déclenché de sanctions, alors qu'ils auraient pu déclencher des sanctions. Donc, voilà, un contournement. Un autre, jusque dans les années 90, normalement, les commissions d'enquête, faire le lien avec mon voisin, les commissions d'enquête devaient être composées au scrutin majoritaire. À partir des années 90, elles le sont, le texte le dit, à la proportionnelle. Mais avant même 1990, c'était déjà en réalité à la proportionnelle. Donc voilà, c'est très, très classique en droit parlementaire. Sur la question, la réflexion relative à l'articulation entre les comportements partisans et les comportements parlementaires, Éric Kerrouche l'a dit ce matin, en fait, hein, il a l'impression, d'une certaine manière, en devenant parlementaire, il ne s'appartient plus. Et je pense qu'il y a une réalité, et d'ailleurs valable dans tous les pays. Edmund Burke disait aux électeurs de Bristol qui venaient de l'élire député, sitôt élu, je ne suis plus élu de Bristol, je suis membre du Parlement. Voilà, donc, alors c'était pour leur dire, je ne vous dois plus, je ne suis pas responsable devant vous, mais c'était aussi quand même, ça a intériorisé une fonction un peu différente. Alors, s'agissant des questions que tu as bien voulu me poser, comment est utilisée l'émission pour les membres de l'opposition? Comment ça se déroule? Alors, la plupart, il faut le dire, donc il y a 3% pour les missions confiées à des députés, le sont à des députés de l'opposition, entre 10 et 11% pour des missions confiées à des sénateurs. Comme je disais, comme il n'y a pas une majorité pour le gouvernement au Sénat, pas nécessairement en tout cas, c'est pour ça qu'on y recourt davantage. La plupart, quand même, sont des missions en réalité communes. C'est-à-dire qu'elles sont confiées à la fois à un parlementaire de la majorité, un parlementaire de l'opposition, ce qui fait gonfler un peu artificiellement le nombre de parlementaires de l'opposition. Et quand ce n'est pas le cas, ce sont des parlementaires de l'opposition qui sont un petit peu des francs-tireurs ou qui sont un petit peu en marge de leur groupe. Ils ne sont pas forcément très représentatifs de leur groupe parlementaire. Donc peut-être y a-t-il des stratégies d'attirance issues de la part du gouvernement. Alors, sachant que le gouvernement ne prend pas beaucoup de risques, hein, parce que si le rapport ne va pas vraiment dans le sens de ce que le gouvernement souhaite, mais en fait, la publication du rapport dépend du seul Premier ministre. C'est ce qu'on appelle en droit public un acte de gouvernement, c'est-à-dire que ce n'est pas contestable devant une juridiction, la non-publication du rapport. Donc, pas de risque pour le gouvernement. Tu me demandais aussi pour Édouard Philippe. Alors Édouard Philippe, on en est à 48 maintenant, 40 quand j'ai envoyé mon papier, mais 48 missions désormais. Un usage très massif, puisqu'il égale le record de fréquence de Manuel Valls. 2,67 parlementaires missionnés par mois depuis qu'il est au gouvernement, donc c'est pas mal. Alors, on voit bien, il y a quand même proportionnellement pas mal de sénateurs, ce qui peut s'expliquer par l'absence de majorité au Sénat et peut-être la volonté ou la nécessité de négocier avec les groupes centristes du Sénat notamment. Alors, tu évoquais, et c'est en lien aussi avec Édouard Philippe, tu évoquais la question des liens avec les lobbies, etc. Est-ce que ce n'est pas un moyen de se ménager les lobbies? Sans aucun doute, lundi, donc publié mardi au Journal officiel, mais lundi a été signé un décret qui confie une mission à un parlementaire LREM qui s'est fait connaître récemment. Alors, la mission porte sur la chasse. Et il s'est fait connaître très récemment en proposant l'interdiction de la pratique du VTT pendant la saison de chasse. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il s'agit, et je pense que c'est à l'occasion, enfin vous êtes plus expert que moi, mais c'est qu'à l'occasion d'un rapport qui doit tomber à peu près à la date des élections européennes, se ménager le vote des chasseurs. S'agissant des moyens pour mener à bien une mission, alors, elles ne sont plus rémunérées, elles ont pu l'être à une époque, mais elles l'étaient assez rarement. Elles ne sont plus rémunérées. En revanche, il y a des moyens matériels qui sont mis à disposition, et notamment un personnel. Souvent, il y a un personnel d'une inspection générale ou de la haute administration qui est mis à disposition du parlementaire, alors qui fait quand même travailler. J'ai interrogé pour parce que c'est le troisième paquet, en quelque sorte, que je fais sur ce sujet avec des angles différents, j'ai interrogé une trentaine de parlementaires qui avaient été missionnés. Et effectivement, plusieurs d'entre eux m'ont dit qu'ils avaient fait travailler ce personnel dédié, ils ont fait travailler leurs collaborateurs parlementaires. Et puis, quelquefois, ils ont dû effectivement puiser dans leur cassette personnelle, alors sur ce qu'on appelait l'IRFM à l'époque, donc maintenant la MFM, l'indemnité représentative de frais de mandat, pour effectivement pouvoir payer un certain nombre de déplacements pour aller interroger des personnes ou expertiser des situations. Ce qui veut dire que ça a effectivement un coût financier pour certains d'entre eux, ça dépend vraiment du type de mission, il faut le dire. Il peut y avoir un coût financier, mais il y a quand même un coût qui est, à mon avis, qui leur est favorable, parce que le coût politique, ça les met vraiment en avant, c'est vraiment un éclairage. Et la position du député lambda de la majorité, c'est vraiment une position hyper inconfortable. Vous devez lever la main au moment des votes quand on vous le demande, vous devez pas répondre aux sollicitations ou aux critiques, voire même aux gesticulations de l'opposition, parce qu'il ne faut surtout pas perdre le temps du gouvernement et de la majorité. Donc, au moins, c'est vécu, et vraiment beaucoup de parlementaires me l'ont dit, c'est vécu comme un moyen de vivre leur fonction parlementaire d'une manière un peu différente et mieux la vivre. Et dernière chose sur l'école du pouvoir, comme j'ai pu le dire. Alors, c'est vrai que c'est assez surprenant, j'ai été assez surpris. Mais donc, chez Lionel Jospin, c'est à peu près 10% des parlementaires qu'il a missionnés qui sont devenus ministres dans le gouvernement de Lionel Jospin. Alors, quelquefois, au total, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une trentaine de parlementaires missionnés qui sont devenus membres du gouvernement. Ils le sont devenus quelquefois avec un décalage temporel. Je pense que ça teste quand même l'aptitude d'abord à formaliser un dossier, à répondre à des attentes aussi. Ça teste notamment la fidélité politique. Je pense que voilà, c'est en cela que c'est une forme d'école du pouvoir. C'est pas pour la capacité à mener une équipe ou quoi que ce soit. Ça, je pense qu'on est bien au-delà. Voilà.
Merci. Y a-t-il des questions ? Oui.
Ce n'est pas tellement une question, mais c'est une remarque par rapport à ce que disait Marine Lefebvre au début, sur deux points. Ça sera presque plus une question pour les organisateurs. Effectivement, avec l'idée qu'on voit la fonction législative apparaître assez tard dans le bloc, mais peut-être que la fonction législative n'est pas la fonction première d'un parlement. Et pour le coup, là, les juristes, nous avons nous aussi une part de responsabilité dans cette. Dans cette idée que la fonction législative serait très importante, sans doute encore une fois marquée par l'importance que l'on donne à la séparation des pouvoirs, et encore une fois cette vision un peu mythique opposant artificiellement gouvernement et parlement, je trouve qu'à la fois dans les commissions d'enquête et dans les parlementaires en mission, on retrouve une logique qui n'est justement pas celle de la séparation des pouvoirs opposant artificiellement gouvernement et parlement. À ce moment-là, on a une fonction qui est vision du travail qui est bien plus entre contrôle et législation. Et à ce moment-là, la législation se fait au sein de la majorité. Et pour ce que vous disiez, Gilles, sur les parlementaires en mission, la mission devient un outil de gestion de la majorité. Parce que, par définition, une majorité en nombreux et qu'il faut bien occuper tout le monde, que les postes au gouvernement ne sont pas si nombreux que ça et que donc il faut bien distribuer aussi et faire en sorte que chacun ait quelque chose à faire. Du coup, j'aimerais savoir si, pour les organisateurs, il y avait cette idée-là aussi de fonction législative qui finalement n'est peut-être pas si importante que cela, ou pas si prioritaire que cela. Et juste une phrase supplémentaire, je rejoins tout à fait ce que tu dis, Gilles, sur les règles, les usages en droit parlementaire. Et sans doute que les juristes qui s'intéressent aux questions parlementaires sont ceux qui, parmi les constitutionnalistes, sont les plus enclins à observer ça.
On répond en tant qu'organisateur ou... Non, mais c'est juste parce que c'est vraiment une remarque très intéressante que vous avez du coup tous les deux introduite. Le point de départ un peu du colloque, mais ça a été dit aussi ce matin, c'était de voir, par un réflexe effectivement un peu juridique, mais je pense aussi un peu politique, de voir ce que font les parlements sur la loi. C'est-à-dire, c'est vraiment justement cette procédure législative. Et on avait un peu insisté là-dedans dans la communication. Et c'est pas du tout qu'on est déçus, loin de là, parce que la qualité de toutes les communications pour l'instant en test, on n'a pas eu de quoi en fait faire beaucoup de panels sur ces questions-là, que ce soit dans une perspective politiste ou juriste. Donc du coup, on a pris ça non pas comme un échec, loin de là, mais au contraire comme justement la preuve que d'autres choses...
Un enregistrement des préoccupations
de recherche. Voilà, exactement. Et puis sur certainement aussi un signe de l'évolution de ce que fait par
exemple...
Voilà. Et en particulier cette option de contrôle qui est mise en avant, compris on en a parlé de Bastien François par exemple, qui a beaucoup mis ça en avant quand il nous a discuté de l'organisation de ce colloque. Et du coup, voilà, on a fait le choix de noyer un peu au milieu effectivement des deux jours cette dimension qui est logiquement centrale, c'est-à-dire la fabrique de la loi, mais de montrer qu'en fait, on délaisse le Parlement si on ne se rend pas compte de tout ce qu'il fait à côté, en particulier ses missions de contrôle.
Mais en fait, on s'est adapté aux réponses qu'on a obtenues dans les propositions de communication qui ne portaient pas toutes sur ce qui était mentionné dans l'appel, en fait. Voilà. D'autres questions ? Oui.
Je vais peut-être vous poser une question sur les parlementaires en mission. Peut-être que vous l'avez dit, parce que là, ça m'a marqué. Est-ce qu'on obtient sur la législature un moment fort, donc, je ne sais pas, par exemple, 2 ans et demi, on va se mettre à nommer peut-être des parlementaires en mission, enfin, même, par exemple, plutôt sur la fonction parlement, avec, on avait raconté un truc que je n'ai pas trop entendu non plus. Mais il y avait un suppléant de député qui voulait prendre la suite au mandat suivant. Donc il avait besoin d'une légitimité locale pour commencer à se faire connaître, s'ancrer. Et donc il faisait tout ce qu'il pouvait pour pousser son parlementaire à demander une mission pour pouvoir devenir à un moment député et après faire sa propre campagne. Avec une... Voilà. Je ne sais pas si ça vous l'avez observé, donc du coup ça nous permettrait peut-être 2 ans.
Alors, j'ai pas regardé ça, mais je regarderai parce que j'ai élaboré une base de données sur la base avec les 720 décrets en question. Donc, je regarderai ça justement s'il y a des périodes charnières, peut-être. Si j'avais pas pensé à cette hypothèse, donc je vous remercie de me la suggérer. Alors, s'agissant sur le deuxième aspect, les suppléants qui peuvent un petit peu solliciter justement les parlementaires de ce point de vue, j'ai peu discuté avec les collaborateurs des parlementaires directement. J'ai plutôt choisi d'interroger les parlementaires. Mais il est certain, effectivement, moi aussi j'ai entendu parler de petites choses comme ça. Pas forcément vous le répéter là, mais il y a effectivement 2-3 cas qui me sont venus aux oreilles de parlementaires qui sont poussés par leur suppléant à accepter une mission et avec le suppléant qui croise les doigts pour que la mission soit prolongée, que le parlementaire accepte une prolongation de la mission. On a quelques cas qui sont absolument scandaleux. Et ceux-là, ils sont avérés de renouvellement. C'est une des stratégies que j'ai évoquées. Vous savez, avant de nommer quelqu'un dans une fonction exécutive, on le nomme pour une mission parlementaire, on renouvelle la mission et comme ça, on peut le remplacer par son suppléant. Il y a quelques cas qui sont absolument scandaleux. Je vous ai cité le cas de Pierre Bédier, mais je pourrais citer lors des toutes premières missions. François Missoff, il fait une mission en 1974. C'est sa femme qui est sa suppléante. Et donc, comme sa mission est renouvelée, le mandat reste dans la famille. Et puis, je crois que c'était en 2015, un cas peut-être encore un peu plus choquant, si on reprend toute l'histoire. Un parlementaire et député, il se fait élire au Sénat. Donc, sa suppléante devient députée. Il se trouve que c'était son épouse. Elle se fait réélire, très bien. Elle prend comme suppléante sa belle-fille. Et en l'occurrence, la députée se fait nommer pour une mission parlementaire qui est renouvelée. Et donc la suppléante, la belle-fille, est devenue députée. Donc il y a des histoires familiales aussi, vous le voyez, dans ce genre d'hypothèses. C'est pas les cas les plus nombreux, mais forcément, ce sont des cas un peu choquants. J'imagine qu'avec ce qui s'est passé depuis, ce genre de cas ne pourrait pas se renouveler. En tout cas, j'ose l'espérer. Mais en tout cas, je retiens votre hypothèse. Je vais travailler dessus, sur la date.
Bonjour, merci beaucoup pour toutes vos présentations. J'avais une question pour Aurélie Laire. Comme il me semble qu'au Liban, les élections ont été repoussées énormément, je me demandais ce qu'il en était de l'évolution des rapports de force quand on a des élections qui sont retardées systématiquement plusieurs années. Est-ce que les groupes parlementaires jouent un rôle? Est-ce qu'il y a des groupes parlementaires...
De plusieurs années?
De 5 ans?
Oui, oui.
Merci. On va clore ce panel maintenant.